Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper.
Bonjour à tous! Faut-il dire la vérité aux enfants ? La semaine dernière, nous avons vu « Est-ce que toute vérité est bonne à dire ?» Je vous laisse écouter le podcast pour le découvrir. Et aujourd'hui, on va parler de « Si toute vérité est bonne à dire aux enfants ?» Peut-être le savez-vous, je suis dans une démarche de parentalité consciente, ce qui signifie que j'essaie au maximum, même si je trébuche encore parfois évidemment, d'agir en conscience avec ma fille pour ne pas lui refiler mes névroses, mes traumas, etc. Donc, évidemment, pour moi, et encore une fois, ça n'engage que moi, il faut dire la vérité aux enfants et je développe. D'une part, c'est hyper dur. Je vous le dis tout de suite, à travers ce podcast, je vais vous partager des conseils et mon expérience, mais c'est hyper dur de dire la vérité, toute la vérité aux enfants. Pour la petite histoire, j'ai appris que le Père Noël n'existait pas hyper tard. C'est une copine à l'école qui me l'a dit et elle était hyper étonnée que je ne sois pas déjà au courant. Et j'en ai terriblement voulu à mes parents de m'avoir menti, d'autant qu'ils me demandaient sans arrêt de tout leur dire, d'être honnête et de dire la vérité. J'ai trouvé ça hyper hypocrite de leur part. Je me suis beaucoup remise en question avant d'avoir ma fille et beaucoup questionnée à ce sujet des mensonges justement. Voici donc mon avis. Je pense qu'il ne faut pas mentir aux enfants, mais que parfois il faut adapter nos conversations à leur niveau. Évidemment, mais ne pas mentir, ne pas tourner autour du pot et surtout, ne pas croire qu'ils ne comprennent pas. La plus grosse erreur que j'entends en coaching parental, c'est « je pense qu'il est trop petit pour comprendre » ou bien « il ne se rend pas compte à son âge ». Une maman m'a dit un jour « on se sépare avec mon mari, mais les enfants ne savent pas encore ». Mais quelle erreur ! Bien sûr qu'ils savent, cela se passe à un niveau énergétique et dès le plus jeune âge. S'il y a un seul message à retenir de ce podcast, c'est que les enfants comprennent et savent très bien ce qui se passe, même s'ils ne comprennent pas exactement les mots qui sortent de votre bouche, ils comprennent l'énergie et le concept. J'ai fait dernièrement un sondage sur mes réseaux sociaux à ce sujet, et vous avez été nombreux à me répondre que la plupart du temps, vous mentez aux enfants concernant le Père Noël, parce que, je cite, « ça entretient la magie ». Nous, adultes, passons notre temps à dire à nos enfants de ne pas mentir, de tout nous dire, de ne pas cacher quoi que ce soit, de ne pas avoir de secret entre eux et nous. Et pendant ce temps, même de façon parfois inconsciente, on leur ment délibérément. Première chose, il y a les mensonges qui nous protègent, nous. Parce que mentir nous bloque notre chakra de la gorge et peut générer chez nous des blocages, je pense qu'il vaut mieux ne pas mentir, mais surtout parce que ce sont des mensonges qui nous protègent, nous, plutôt qu'eux. Et notre rôle en tant que parents, c'est d'abord de protéger nos enfants. On doit leur permettre d'être des enfants équipés et responsables et conscients. Généralement, on ment à ses enfants pour s'éviter des situations désagréables. Par exemple, tu veux un autre gâteau ? Oh bah, il n'y en a plus. Ou bien, ah, tu veux goûter ce tiramisu ? Oh non, ça pique. On ment machinalement parce qu'on nous a menti machinalement. Et justement, le concept du machinalement va à l'encontre de la conscience. Moi-même, ça m'est arrivé je ne sais combien de fois. Combien de fois ai-je dû me reprendre quand ma fille me demande encore un boudoir et que je lui réponds « non, il n'y en a plus ». À chaque fois, je me reprends et je lui dis « en fait, c'est pas qu'il n'y en a plus, tu sais, mais aujourd'hui, je trouve que c'est suffisant, t'en as déjà mangé deux, il y a beaucoup de sucre, c'est pas bon pour ta santé, blablabla ». En m'observant comme ça la première fois, je me suis demandé mais qu'est-ce que j'essaie d'éviter en mentant ? Clairement, j'essayais d'éviter que ma fille ne parvienne pas à gérer ses émotions et que je sois confrontée à ses pleurs, à ses cris, parce que ça me fait me sentir incompétente et impuissante. Et c'est ce mécanisme qu'on emploie, nous, adultes, qui se cache derrière ce que certains appellent des crises, des caprices ou des colères. C'est un vocabulaire que je pense que nous devrions arrêter d'utiliser, les caprices, les crises et les colères. Je pense que c'est simplement une situation difficile à gérer pour eux, mais bon bref, on va pas rentrer dans les détails. Les enfants ont parfois du mal à contrôler leurs émotions, c'est normal, c'est un long apprentissage, et d'ailleurs, nous-mêmes n'arrivons pas toujours à le faire, si vous voyez ce que je veux dire. Et au lieu de ne pas s'y confronter parce qu'on a eu une journée de boulot éreintante et qu'on est fatigué, pensons à eux et transmettons-leur les valeurs qui nous semblent les plus justes. Pas de mensonges ? Ok, alors on se met dans une démarche de sincérité, pour nous et pour eux, et on leur explique, et on leur apprend. Ça n'est pas en évitant les, entre guillemets, « crises » qu'ils vont apprendre. Donc, on arrête de se cacher derrière cette fausse excuse et on se confronte. Cela nous fait grandir, et eux aussi. Non, tu n'auras pas de deuxième boudoir, parce que c'est comme ça, parce qu'aujourd'hui tu en as trop mangé, parce qu'il y a beaucoup de sucre et que c'est pas très bon pour toi. Ils se mettent en colère, ils crient ou ils pleurent. Et alors, qu'est-ce qu'on ressent, nous, face à ça? Comment les accompagner pour traverser cette émotion intense? Comment les aider à accueillir l'émotion? Et nous, notre émotion? Notre angoisse monte quand on voit qu'ils se jettent par terre et qu'ils vont commencer à hurler. Pourquoi est-ce qu'on angoisse? Y a-t-il un danger immédiat? Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce que ça nous renvoie de nous-mêmes? Mon enfant se jette par terre, j'angoisse. J'ai peur de voir que je ne suis pas capable de lui apprendre à gérer ses émotions. J'ai peur de me rendre compte que je ne suis pas encore capable de lui transmettre les clés pour s'apaiser et raisonner. J'ai peur de moi-même ne pas réussir à gérer mes émotions, j'ai peur de me mettre en colère. Ça en dit long sur mon impatience. Voyez ce que je veux dire? Au lieu d'éviter ce qu'on appelle une crise, pourquoi ne pas s'y confronter? Ça va nous faire grandir, ça va nous faire être plus conscients de ce qui reste chez nous à travailler, de comment on peut accompagner l'enfant aussi, et ça va lui donner les clés pour la prochaine fois faire mieux. Mentir, finalement, ne fait que repousser à plus tard une situation qui n'ira qu'en s'aggravant si je ne l'adresse pas. Autre chose importante, faut savoir que les enfants ne font pas ce qu'on leur dit, mais ils reproduisent ce qu'ils voient. Ils apprennent en imitant, et ce pour tout. C'est pour ça d'ailleurs qu'on leur montre l'exercice pour qu'ils le reproduisent. C'est pareil avec l'éducation, ils font ce qu'ils voient. Et si on leur ment et qu'on leur dit de ne pas faire quelque chose? Et si on leur ment tout en leur disant de ne pas le faire? Que vont-ils faire d'après vous? Il y a de nombreux sujets touchy sur lesquels on se sent, nous, adultes, tellement inconfortables et démunis, ou qu'on n'a pas forcément les outils, qu'on a développé comme un mécanisme de défense qui s'appelle le mensonge. Ça, c'est pour les mensonges qui nous protègent, nous. Maintenant, il y a des mensonges qui les protègent, eux. La mort, le sexe, le divorce, les disputes de parents, la maladie. On leur ment pour les protéger. Enfin, c'est ce qu'on se raconte à nous-mêmes. Mais c'est faux et c'est hypocrite de penser ça. Parce qu'on n'a pas envie de dire la vérité par peur du vide, de la tristesse ou du mal-être que l'on pourrait générer chez l'enfant. Mais comme je vous le disais précédemment, il le sait déjà, avant même que l'on mette des mots dessus. L'enfant peut tout comprendre si l'on utilise des mots adaptés à son âge. Par exemple, si les parents se disputent, on n'est pas obligé de dire « Alors, Jean-Michel et maman se voient trop souvent, donc papa est mécontent. » On peut commencer par « Papa et maman ne sont pas d'accord sur certains aspects des relations » et ils essaient de trouver un terrain d'entente. L'important, c'est qu'ils comprennent que les tensions palpables qu'ils ressentent sont bel et bien là, mais que c'est temporaire, que c'est aussi normal pour des êtres humains d'être en désaccord parfois, parce que lui, ça va lui arriver, que ces désaccords font ressentir des émotions et que c'est pour ça que papa, par exemple, est triste ou que maman est en colère. Il peut comprendre le concept si on le lui explique. On peut aussi lui dire qu'il n'a pas à s'inquiéter, qu'on l'aime toujours, que papa et maman s'aiment toujours, etc. La mort, c'est aussi un des terrains sur lesquels on a tendance à mentir aux enfants pour, entre guillemets, les protéger, mais c'est pas vrai. Mais ça fait tout le contraire, en fait. J'avais une cliente la dernière fois qui m'expliquait qu'elle a dit à son fils « Papy est parti au ciel » et l'enfant n'a pas compris. C'est un peu comme quand vous dites à des enfants « il est parti faire un long voyage » ou « il s'est endormi ». S'il vous plaît, ne faites pas ça avec vos enfants. Papy est mort, il faut le dire, avec le mot adapté. Il n'est pas parti en voyage, sinon l'enfant va stresser quand il partira en voyage ou quand papa va partir en voyage d'affaires. Il ne s'est pas endormi, sinon ça génère la peur de l'endormissement chez l'enfant. Non. Papy est mort parce qu'il était très très vieux, ou qu'il avait un cancer, ou qu'il a fait un AVC. Il est très important de nommer la maladie, parce que si on se contente de dire « il était malade et il est mort », l'enfant va paniquer dès qu'il verra son papa ou sa maman malade, ou que même lui va tomber malade. Il ne sait pas exactement ce que c'est qu'un AVC, on n'a qu'à lui expliquer par exemple c'est quand le cœur s'arrête en nommant la maladie, on peut dire « il a fait un AVC, c'est une sorte de maladie très grave qui parfois ne se soigne pas, il y a des maladies qui se soignent et d'autres qui ne se soignent pas, et un AVC c'est une maladie qui ne se soigne pas, blablabla ». Bref, pareil pour la sexualité, pas la peine de rentrer dans les détails de « alors la gamète machin avec le chromosome plus nanani nanana » On peut simplement dire que papa et maman, par exemple, se font des câlins d'adultes, c'est-à-dire en utilisant leur partie génitale en fonction de l'âge de votre enfant, etc. C'est un bon début. J'ai aussi eu le cas aux États-Unis d'une mère qui me disait qu'elle avait peur de dire la vérité sur les brutalités émanant de la police envers les personnes de couleur aux US. Alors là, c'est hyper spécifique, mais c'est pour vous donner un exemple. Mais ici encore, on voit ça avec nos yeux d'adultes. Tous les policiers sur cette terre ou aux US ne sont pas violents, et les généralités augmentent l'état de stress général de l'enfant. Dire que parfois certains ne se comportent pas correctement parce qu'ils n'ont pas encore fait le travail ou qu'ils n'ont pas les bons outils, c'est un bon début. Et il y a aussi, et surtout, plein de livres que je vous recommande d'ailleurs, et je vous mets le lien dans les notes du podcast, pour faire passer vos messages avec des jolies images, avec des belles morales à vos enfants, si pour vous parler d'un sujet est délicat ou si vous êtes trop dans l'émotionnel quant à ce sujet, eh bien peut-être que ça peut être le moment d'utiliser des livres pour faire passer vos messages. Ensuite, il y a les mensonges de société. Donc là, on retrouve le Père Noël, la petite souris, etc. Ces mensonges-là, chacun a son avis, encore une fois, mais pour moi, c'est un peu contre-productif de mentir là-dessus. Déjà, le concept du Père Noël, qui fait parfois appel au chantage. Si tu n'es pas sage, le Père Noël ne passera pas. Je trouve ça tellement fucked up. Le système de la carotte dans toute sa splendeur. Et pareil, comme s'il fallait être sage. Sage ? Mais pourquoi ? Sois toi-même au lieu d'être sage. Mais c'est un autre sujet. Le Père Noël, pour moi, c'est juste parce qu'on trouve ça mignon, nous, en tant qu'adultes, et qu'on a évolué dans une société chrétienne. Mais je pense que les enfants des autres cultures grandissent aussi très bien. La façon la plus consciente pour moi de raconter le Père Noël aux enfants et de les responsabiliser, c'est de leur dire que le Père Noël, c'est un joli conte, une belle histoire qu'on raconte aux enfants, et que certains préfèrent y croire, et qu'on doit respecter cela. C'est un conte auquel il peut croire si ça lui fait du bien. On ne va pas dire que le roi lion c'est faux, n'est-ce pas ? On n'a pas besoin de leur dire que c'est faux, ils savent que c'est faux. Ils décident d'y croire parce qu'ils aiment ça. Eh bien le Père Noël c'est pareil. On peut très bien expliquer que c'est une légende, c'est une histoire, et que si ça lui fait du bien d'y croire, eh bien qu'il y croit, et ça n'enlèvera en rien la magie de Noël. À Noël, il est de coutume de se faire des cadeaux pour passer un bon moment en famille et de manifester son affection, comme pour les anniversaires. Alors, maman et papa te font des cadeaux, plus que d'ordinaire, mais ça n'est pas obligatoire, et c'est décorrélé de si tu t'es bien comporté. Pour moi, c'est la manière la plus consciente de raconter le Père Noël. La petite souris, c'est une méthode aussi comme une autre pour apprendre à l'enfant à gérer son argent. On peut très bien lui dire, bah voilà, quand tu perds une dent, je te mets un peu d'argent sous ton oreiller, et du coup, ça te permet de gérer une petite cagnotte, etc., etc. Encore une fois, c'est des mensonges plus pour nous que pour eux. Dire « je fais croire au Père Noël à mon enfant pour qu'il ait la magie de Noël », je pense que c'est faux. C'est qu'on aime voir nos enfants avec des étoiles dans les yeux, mais je pense qu'ils en auraient tout autant s'ils savaient que les cadeaux venaient de nous. Parce que oui, c'est joli et c'est mignon le Père Noël, mais en soi, ce qui les intéresse dans le Père Noël, c'est surtout les cadeaux. Ça leur apprend à respecter aussi le côté « on ne raconte pas aux autres chacun ses opinions ». C'est-à-dire que voilà, toi tu détiens la vérité, tu sais que c'est un joli conte et une belle histoire, mais s'il te plaît, comme Jean-Pierre, Marin ou Marcel a décidé d'y croire, eh bien, tu dois respecter ça aussi. Et sans transition, on parle aussi de secrets et surprises parce que c'est un vrai sujet quand on est parent. Si vous êtes parent, vous avez peur que vos enfants gardent des secrets beaucoup trop lourds pour eux, au niveau sexuel par exemple ou d'autres. Et j'ai, entre guillemets, trouvé une solution, mais je suis preneuse aussi de vos recommandations en commentaire. L'approche la plus adaptée que j'ai trouvée pour le moment, c'est définir un secret et une surprise. Comme on ne veut pas que nos enfants nous mentent et nous cachent des choses, parce que parfois c'est des choses qu'ils ne devraient pas nous cacher, on peut diviser le secret et la surprise. Une surprise, ça a une date d'expiration, ça fait ressentir de l'excitation et de la joie à l'idée que cette date approche, et surtout, surtout, une surprise, ça se partage avec tout le monde. Un secret, en revanche, ça nous fait nous sentir un peu triste, un petit peu stressé, ça n'a pas de date d'expiration et en général c'est entre une ou deux personnes. Avoir cette approche-là, c'est dire on peut faire des surprises, mais il faut qu'elles aient des dates d'expiration, on ne peut pas faire de secret entre nous. Et vous savez, c'est aussi ok de prendre le temps de réfléchir à une réponse. Si par exemple votre enfant vous pose une question et vous n'êtes pas à l'aise parce que vous ne savez pas comment lui dire la vérité, vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite. Vous pouvez très bien lui dire, écoute, je vais processer cette question et je reviens vers toi dans quelques minutes, dans quelques heures, tout au plus, hein, bien sûr, on ne revient pas des jours après, pour t'y répondre de la manière la plus appropriée. Enfin, puisqu'on est dans les mensonges et dans les vérités, si votre enfant vous ment, au lieu de lui dire « tu es un menteur, c'est pas bien », prenez un moment pour vous rendre compte à quel point d'une part il a atteint une grande étape de son développement, c'est-à-dire avoir de l'information et la falsifier pour se protéger, c'est un moyen et un mécanisme de survie incroyablement efficace et intelligent quand il est bien employé. Et ceci étant dit, évidemment, on ne doit pas encourager notre enfant à mentir. Mais qu'il sache s'en servir à bon escient peut lui être utile un jour. J'ai été élevée avec des parents qui m'ont toujours dit que c'était « pas beau » entre guillemets de mentir. Et je me suis parfois retrouvée dans des situations délicates où je n'ai pas osé dire la vérité et je me suis sentie moche ou comme une merde, passez-moi l'expression. Cela vous met en colère quand votre enfant vous ment, parce que vous êtes en colère contre vous-même, car vous avez la sensation de ne pas avoir réussi à instaurer un climat de confiance dans lequel votre enfant se sent en sécurité de vous dire la vérité. Si votre enfant vous ment, voici quelques axes de développement, et c'est valide aussi pour votre conjoint, by the way. Premièrement, soyez factuel. Ah, tu me dis que tu n'as pas mangé ce gâteau ? Pourtant, il n'y a personne d'autre que toi et moi dans la maison, et le gâteau est disparu. Est-ce que tu peux m'expliquer comment c'est possible ? Qu'est-ce que tu crois qui a pu se passer ? Au lieu de l'accuser directement, être factuel, ça peut lui permettre de se rendre compte en fait qu'il est pris la main dans le sac. Ensuite, faire une pause. Ok, si vous voyez que ça ne mène nulle part, ça ne sert à rien d'insister. Vous pouvez dire « Ok, on reparlera de cette conversation un peu plus tard, laissez-le un peu jouer, etc. » Et ensuite, vous revenez vers lui et vous lui dites « Ok, tu te souviens de la conversation à propos du gâteau ? Est-ce que ce serait possible que tu l'aies mangé ?» Peut-être que ça peut un peu désamorcer l'angoisse qu'il aurait pu ressentir en vous voyant avec des gros yeux la première fois. Ensuite, vous pouvez valider leur émotion. Je sais que dire la vérité, ça peut être difficile, parfois. Je comprends. Quand j'étais petite aussi, des fois j'ai menti, et en fait j'ai appris que ça me faisait me sentir beaucoup mieux de dire la vérité. Et enfin, évidemment, si vous avez réussi à lui faire admettre qu'il a menti, eh bien il y a des conséquences logiques, et attention, pas des punitions qui n'ont rien à voir et qui ne servent à rien. Par exemple, si votre enfant a cassé un vase, ok, bon ben, écoute, merci beaucoup de m'avoir dit la vérité, je suis reconnaissante que tu m'aies dit la vérité, maintenant on va essayer de nettoyer ensemble pour que justement, il n'y ait plus rien par terre. Pour conclure, je dirais que finalement la vérité finit toujours par se savoir et qu'on ne sait pas quelles conséquences le mensonge peut avoir. D'autre part, les enfants sont intuitifs. S'ils sentent quelque chose, ils vont tirer une conclusion, mais peut-être qu'elle sera déformée ou pas forcément réelle ou en ligne avec la réalité et ça peut créer encore plus de problèmes derrière. Lorsqu'on ne dit pas la vérité, on alimente une machine à gonfler l'imaginaire et on laisse les enfants se faire des films. La vraie question, c'est simplement de savoir comment on dit la vérité, comment on annonce et comment on fait pour qu'elle ne remue pas ou qu'elle ne bouscule pas trop. J'espère que cet épisode vous a plu et j'ai hâte d'entendre vos avis. À très vite !